Vous écoutez, on lit pour vous.
L'Assemblée nationale se porte à la défense d'autrices victimes de censure. Un texte de Stéphane Baillargeon, paru le 9 février 2024 dans Le Devoir. Les députés de l'Assemblée nationale ont appuyé à l'unanimité, jeudi, deux autrices et une illustratrice québécoise victimes de censure aux États-Unis et à Montréal. Le texte de la motion déposée jeudi matin par Québec solidaire, QS, avec l'appui du Parti québécois, affirme son soutien aux écrivaines québécoises Élise Gravel et Myriam Dagouzan-Bernier, ainsi qu'à l'illustratrice Cécile Gariepi. Il réitère l'adhésion du Parlement à la liberté d'opinion, à la liberté d'expression et à la libre circulation des idées. Le livre « Naked », version anglaise de « Tout nu » de mesdames Dagouzan, Bernier et Gariepi, a été brûlé au lance-flammes il y a quelques jours par Valentina Gomez, candidate au poste de secrétaire d'État au Missouri. Madame Gomez a diffusé une vidéo de son autodafé spectaculaire. Élise Gravel, elle, est visée par la décision de la Bibliothèque publique juive de Montréal de retirer de ses rayons en libre-service, mais pas de sa collection, une trentaine de ses livres. La décision survient après la diffusion, par Madame Gravel, sur sa page Facebook, de commentaires illustrés sur le conflit entre le Hamas et Israël, jugé antisémite par la direction de la bibliothèque. Sur Facebook, l'écrivaine a réagi à la controverse. « Je suis triste que l'accès à mes livres soit limité pour ces enfants, mais je tiens à préciser que je n'ai aucune colère contre la bibliothèque ni contre son personnel ou sa direction. Je comprends le climat toxique et les pressions sociales qui poussent les gens et les organismes à l'autocensure et à la censure. Bien que je sois en désaccord avec la décision de retirer mes livres des étagères, j'ai de la compassion pour les gens qui ont à prendre des décisions comme celle-ci », a-t-elle écrit. La motion déposée par Québec solidaire a rapidement fait le plein des 106 votes disponibles. Aucun député ne s'est prononcé contre ou ne s'est abstenu. On est vraiment en bloc, tous les partis ensemble, toutes les tendances politiques, dit en entrevue au Devoir le député solidaire Sol Zanetti, porteur de la motion avec l'appui du péquiste Pascal Bérubé. C'est important de dire qu'on n'embarque pas dans le discours de la droite américaine. Ce qui se passe chez les républicains aux États-Unis, la radicalisation du discours conservateur des candidats et des candidates aux élections, qui brûlent des livres avec des lance-flammes et qui promettent d'en brûler d'autres s'ils sont élus, c'est très, très, très alarmant. Très alarmant. Il faut affirmer que cette affaire-là, au Québec, ça ne passe pas. Guerre culturelle. Le livre continue d'être un champ de bataille des guerres culturelles « Made in USA ». Rien qu'entre le 1er juillet 2021 et le 31 mars 2022, près de 1600 livres ont été bannis, des termes en anglais « book bans », dans 86 districts scolaires du pays, fédérant près de 2900 écoles, selon une enquête de Pen America. Par contraste, en 2021, sur les 74 demandes de retrait de livres des collections des bibliothèques publiques canadiennes, une seule provenait du Québec. La requête visait un essayiste français spécialiste des tueurs en série qui a reconnu avoir publié de fausses informations. La demande a été rejetée. Québec solidaire a déposé une première motion d'appui à Élise Gravel l'an dernier, qui avait été adoptée. Cette fois-là, la démarche concernait la censure aux États-Unis d'un livre sur l'identité de genre. C'est inquiétant, parce que le message qui est envoyé aux autrices et aux auteurs du Québec, c'est « Faites attention à ce que vous dites. Faites attention à ce que vous exprimez publiquement comme position politique, parce que vos livres pourraient être retirés de certaines bibliothèques », dit M. Zanetti. Le ministre de la Culture, Mathieu Lacombe, avait lui-même déploré ces situations de censure avant le vote des députés. Mettre des livres à l'index, là, je pense que ça fait un peu vieux curé des années 1900. On est ailleurs, a-t-il lâché, en mêlée de presse à l'Assemblée nationale. Brûler des livres, là, à un moment donné, on est en 2024. C'était « L'Assemblée nationale se porte à la défense d'autrices victimes de censure ». Un texte de Stéphane Baillargeon, paru le 9 février 2024 dans Le Devoir.
Les circulaires s'invitent sur les ondes. Un texte de Gabriel Bélan, paru le 10 février 2024 dans La Presse. Dans les studios du FM 93, qui se targue d'être la radio privée la plus écoutée à Québec, le journaliste Pierre Blais entame ce qui est devenu depuis quelques mois un rituel hebdomadaire, la lecture des meilleures offres dans les circulaires des épiceries. Le houmous est à 2,99 $ chez IGA cette semaine. Ça, ce n'est pas bon, mais des gens aiment ça, alors on le dit, lance-t-il au micro, suscitant le rire entendu de l'animateur Stéphane Dupont. À 5,77 $ la canisse de sirop d'érable chez Métro, c'est quand même très bon, ajoute Pierre Blais, qui détaille les meilleures offres des principales enseignes entre quelques échanges sur la conservation des patates ou encore le dégoût de l'animateur pour le brocoli. Le ton est blagueur, mais les préoccupations des auditeurs sont bien réelles. Une famille de 4 devra dépenser 700 $ de plus à l'épicerie en 2024, prévoit le rapport sur les prix alimentaires au Canada 2024. Le segment est donc né dans ce contexte inflationniste avec l'objectif simple d'aider les auditeurs à réduire leurs factures d'épicerie. Les gens disent qu'ils n'ont pas d'argent et c'est vrai. Moi-même, j'ai de la difficulté à arriver, mais là, dans ces circulaires, « il y en a de l'argent de disponible », explique Pierre Blais, qui a commencé à faire cette revue des circulaires il y a quelques mois seulement. « Je trouve que nos piastres sont difficilement gagnés dans la vie, alors tu es aussi bien de payer le juste prix. Au bout du compte, un tas de petites économies, ça fait de grosses économies », soutient Pierre Blais. Le FM 93 n'est pas le seul média à présenter le meilleur des circulaires sur ses ondes. Le contexte inflationniste a poussé plusieurs médias à investir ce créneau. LCN a une rubrique similaire depuis plus d'un an dans son émission « À vos affaires ». La rubrique « Le combat des circulaires » avait été lancée par l'animateur Pierre-Olivier Zappa. Il est arrivé que 250 000 téléspectateurs écoute son segment les mercredis soirs, a-t-il récemment expliqué en entrevue sur les ondes du 98,5. C'est une belle réussite qui témoigne d'une chose. Les gens en veulent plus pour leur argent. Dans un contexte d'inflation alimentaire où le panier d'épicerie bondit de 10 % par année depuis 2 ans, le seul moyen de s'en sortir, c'est d'éplucher les circulaires, a indiqué Zappa au micro de Patrick Lagacé. En plus du FM 93, Cogeco a aussi une autre chronique circulaire sur les ondes de Rythme FM et d'autres antennes menée par Jessica Laflamme. Ça fait partie des préoccupations des gens, on le sent, explique François Cormier, directeur de l'information et adjoint à la programmation au FM 93. On veut être des radios de proximité et aider nos auditeurs dans leur quotidien. On pense que ça accomplit bien ce rôle-là, nous dit François Cormier. Des rabais populaires comme jamais. la firme de recherche Nielsen IQ évalue qu'actuellement, près de 6 articles achetés sur 10 à l'épicerie sont en rabais. Il s'agirait d'un record. C'est d'ailleurs au Québec, plus qu'ailleurs au Canada, que les achats d'aliments en solde sont les plus fréquents, écrivait récemment Marie-Ève Fournier. Pierre Blais, lui, a toujours été intéressé par les circulaires, mais la montée en flèche de l'inflation a rendu la recherche d'aubaine essentielle pour ce père de 3 enfants. Je suis surpris de la quantité de gens qui ne le font pas. Pour moi, c'est de l'argent lancé par les fenêtres, dit-il. D'autres vont dire que c'est un investissement de temps qui n'a pas de bon sens par rapport aux économies. Je ne suis pas d'accord avec ça. Ça devient un mode de vie, pas un effort. Le journaliste visite souvent 4 ou 5 épiceries différentes dans la semaine pour profiter des meilleurs rabais. C'est maladif à un moment donné. Le danger, c'est que ça te rende fou. Mais pour l'instant, je vis bien avec tout ça. Des banques alimentaires prises d'assaut. L'inflation alimentaire n'a pas qu'augmenté l'intérêt pour les circulaires, elle a aussi multiplié le nombre de Québécois qui ont recours aux banques alimentaires. Leur nombre a bondi de 73% depuis 2019, a récemment indiqué le réseau des banques alimentaires. L'insécurité alimentaire atteint des sommets alors que le contexte économique préoccupant laisse envisager des jours encore plus difficiles, a déploré Martin Munger, directeur général des banques alimentaires du Québec, BAQ. À Québec, une banque alimentaire particulièrement populaire constate que le nombre de paniers distribués a plus que doublé depuis la pandémie. « Ça me fend le cœur, mon bon monsieur », a récemment dit à la presse le directeur général de la Bouchée généreuse, Pierre Gravel, à propos des longues files devant son organisme, même par temps glacial. C'était « Les circulaires s'invitent sur les ondes », un texte de Gabriel Bélan, paru le 10 février 2024 dans La Presse.
Être policière, à cheval, un texte d'Émilie Côté, paru le 18 février 2024 dans La Presse. Mercredi 7 février 2024, 16h, sur le Mont-Royal, à l'écurie du service de police de la ville de Montréal, SPVM. Myriam Murray-Langlois guide son cheval pacifique à l'intérieur d'une remorque. La policière et sa collègue doivent se rendre à Dollard-des-Ormeaux où, la veille, un homme a été abattu par balle. Leur rôle, sécuriser le voisinage, mais aussi jaser avec les gens pour possiblement recueillir des informations. Quand il se passe quelque chose, on veut être présent, fait valoir Myriam Murray-Langlois, défaisant l'idée que la cavalerie est là où les policiers vont finir leur carrière en douce avant la retraite. On voit des policiers à cheval, dans les fêtes de quartier ou en balade sur la montagne. Mais le rôle de la plus vieille unité du SPVM, instituée en 1885, va bien au-delà de la surveillance. La cavalerie peut être déployée dans tous les arrondissements de l'île, de son propre chef ou à la demande d'un poste de quartier. On écoute les ondes radio, indique Myriam Murray-Langlois, qui a dû récemment intervenir lors d'un conflit violent entre un fils et un père qui avait appelé au 911. Les chevaux attirent positivement l'attention et nourrissent l'approche de la police communautaire. Les gens viennent vers l'animal alors qu'ils n'iraient pas vers un policier dans une autopatrouille, fait remarquer Marie-Ève Dufort. Pendant la période estivale, des policiers à cheval surveillent la sortie des bars sur le boulevard Saint-Laurent les vendredis et samedis. Pour faire circuler les gens et prévenir les attroupements qui tournent mal, ça fonctionne. On estime qu'un cheval est l'équivalent de 4 à 6 policiers au sol. Et c'est beaucoup moins répressif, note Karine Beattie. Elle et ses collègues de la cavalerie, en grande majorité des femmes, peuvent créer des corridors et des périmètres de sécurité, que ce soit pour immobiliser un suspect ou faciliter le passage d'une ambulance. Karen Beatty se souviendra toujours d'une intervention menée avec la sergente Marie-Ève Dufort. Nous étions dans une fête de quartier à Saint-Léonard. Marie-Ève est partie au galop en me disant de la suivre pour un appel d'urgence concernant un bébé en arrêt respiratoire dans une pharmacie, raconte-t-elle. Marie-Ève a géré les chevaux et moi, j'ai fait les manœuvres sur le bébé qui avait un collant coincé dans la gorge et on lui a sauvé la vie. Avec le recul, c'était épique, convient la policière. Nous avons traversé le boulevard Lacordaire à cheval comme si nous étions des cow-boys, évoque Karen Beatty. Un rôle en évolution. C'est une chose de monter à cheval le dimanche par plaisir, mais cela en est une autre de le faire sous haute tension avec de l'équipement armé et un gilet pare-balles qui pèse une douzaine de livres. Il faut avoir l'instinct de policier et l'instinct de cavalier, résume Karen Beatty. Et comment les bêtes réagissent-elles à l'intensité d'une métropole? Les chevaux ont toujours fait partie de la vie urbaine, répond Marie-Ève Dufort. Nos chevaux auraient plus peur d'une vache que d'un camion de recyclage, renchérit Karen Beatty. Même les contraventions se donnent sans même débarquer du cheval. Pour Marie-Ève Dufort, c'est la meilleure job sur la planète. Même un privilège. Puisque le seul autre corps policier de la province à avoir une cavalerie est la Sûreté du Québec. La cavalerie a passé à travers tellement d'époques. Même en 20 ans, le rôle du cheval dans le travail policier a beaucoup évolué, signale la sergente. Nous sommes en développement constant. Nous sommes les experts et c'est à nous de faire nos preuves et de nous assurer que les commandants comprennent bien ce que nous pouvons faire. Au bon soin. Chose certaine, les chevaux de la cavalerie du SPVM sont traités aux petits oignons. À 22 ans, Merlin est le doyen, et il est à l'aube de sa retraite. L'écurie de la cavalerie du SPVM est située sur la voie Camillien-Houd. Le week-end, les petits et grands qui se baladent sur le Mont-Royal admirent les bêtes qui prennent l'air dans le manège. Quatre employés de la ville, appelés palefreniers, prennent soin des chevaux et entretiennent l'écurie. Après 18 ans de loyaux services, la retraite approche pour celui dont le nom prédestinait son métier, Bob Chevalier. « Avant, je travaillais chez Blue Bonnets », raconte-t-il. « Nous sommes très chanceux », souligne sa collègue Gabrielle Bissonnette, tombée en amour avec l'écurie sur la montagne. En plus d'avoir une entraîneuse à temps plein, les chevaux bénéficient de différents soins, comme de l'ostéopathie et de l'acupuncture. Les chevaux ne sont pas juste un outil de travail ou un partenaire. On les aime d'amour, affirme Karen Beatty. Plus d'appelés que d'élus. Les policiers qui souhaitent rejoindre les rangs de la cavalerie doivent réussir une entrevue, un test physique et une épreuve à cheval. Ils se retrouvent ensuite sur une liste, puis, par ordre d'ancienneté, ils seront d'abord attitrés à des assignations occasionnelles avant d'obtenir un des 12 postes. Comme Myriam Murray-Langlois, certains agents montent à cheval depuis leur enfance, alors que d'autres l'apprennent sur le tard. Karen Beatty a grandi dans Villemar en rêvant de faire de l'équitation, mais ce n'était pas une activité abordable pour ses parents. Plus tard, c'est toutefois devenu un privilège qu'elle a pu offrir à sa fille. « J'étais dans les gradins à la regarder et je me suis dit, pourquoi l'envier quand je pourrais me lancer ?» Dès qu'elle a obtenu le brevet de cavalier requis, celui du niveau 3, elle l'a fait savoir aux ressources humaines, puis elle a rejoint la cavalerie
après 15 ans à la patrouille. Souvent, il lui arrive, après une journée de travail, de se pincer en disant « Waouh, j'étais à cheval ». C'était « Être policière à cheval », un texte d'Émilie Côté, paru le 18 février 2024 dans la presse.
La multiplication des centenaires va-t-elle bouleverser la planète? Un texte de Marie-Claude Malbeuf, paru le 14 février 2024 dans la presse. Depuis 70 ans, le nombre de centenaires explose dans les pays riches et ce n'est apparemment qu'un début. Les champions de la longévité rêvent désormais de vivre 120 ans. Mais jusqu'où peut croître l'espérance de vie humaine avant que la planète déjà surexploitée ne fournisse plus? Qui, parmi nous, a les moyens d'avaler chaque matin l'équivalent d'un bol de céréales rempli de coûteux suppléments entre deux rendez-vous dans des laboratoires médicaux dernier cri? Pour l'instant, seule une poignée d'aspirants immortels découvre-t-on dans le captivant dossier de Nathalie Collard sur les nouveaux champions de la longévité. Mais qu'arrivera-t-il si survivre jusqu'à 100 ans, voire 120 ans, devient courant un jour sans nécessiter autant d'efforts? Et si 4 ou 5 générations coexistent soudain sur la planète? Vérification faite, il ne s'agit pas d'une pure utopie. La mortalité aux âges avancés et très avancés chute sans relâche dans les pays à revenus élevés, expose l'une des plus grandes expertes démographes en la matière, Nadine Ouellet, professeure à l'Université de Montréal. Au Canada et aux États-Unis, les progrès sont importants et rapides. En moins d'un siècle, le nombre de centenaires québécois a explosé et il continue de grimper à un rythme quasi exponentiel. Le bassin de semi-supercentenaires, 105 à 109 ans, et de supercentenaires, 110 ans ou plus, gonfle également. Avant la pandémie, l'âge le plus fréquent à la mort a dépassé 90 ans au Québec, contre environ 80 ans en 1970, ce qui représente une augmentation moyenne de 2 ans par décennie. D'ici seulement 50 années civiles, la durée de vie la plus commune pourrait ainsi atteindre 100 ans, en avons-nous déduit. Les démographes s'appuient sur des opérations beaucoup plus complexes pour réaliser leurs projections et les évolutions ne se font pas toujours en ligne droite. Mais ce raccourci n'est pas complètement insensé, évalue avec indulgence la professeure Nadine Ouellet. De nouvelles pandémies, des catastrophes naturelles ou d'autres crises pourraient bien freiner les progrès à différents âges, comme le font déjà la crise des opiacés et les inégalités aux États-Unis. Mais des gains inespérés pourraient tout aussi bien survenir, car depuis le milieu du 18e siècle, de grandes avancées médicales et sociales ont fait croître la longévité par bonds imprévus, indique la professeure Nadine Ouellet. Personne n'avait vu venir la révolution cardiovasculaire, illustre-t-elle. D'autres luttes importantes restent maintenant à gagner, par exemple contre le cancer. En attendant, même si la durée de vie la plus commune varie toujours selon la cause de la mort, elle augmente à peu près au même rythme qu'il s'agisse de maladies du cœur ou cérébrovasculaires, ou encore de 4 cancers courants. Cette découverte nous a estomaqués, précise la professeure Nadine Ouellet. À l'Université de Boston, où elle est chercheuse invitée, elle travaille étroitement avec le médecin gériatre responsable de la plus vaste étude au monde sur les centenaires, New England Centenarian Study. Ce type de recherche peut nous aider à trouver ce que ces personnes ont en commun pour élucider les facteurs de longévité. Mais pour l'instant, mourir à 120 ans reste une valeur extrême et exceptionnelle. Il n'est pas forcément impossible que ça devienne fréquent, je l'ignore, mais ça prendrait énormément de temps avant qu'on puisse l'observer, selon Nadine Ouellet. Pauvre planète, comment envisager une telle perspective, même lointaine? personne ne peut être contre l'augmentation de l'espérance de vie, répond Alain Létourneau, professeur de philosophie à l'Université de Sherbrooke. Mais si rien ne change, il voit mal comment allonger l'existence humaine de 15% ou plus serait écologiquement viable. Ça générerait encore plus de déchets, de pollution et de produits de tout acabit qui s'en retourneraient dans les écosystèmes, avance le professeur, qui étudie entre autres l'adaptation au changement climatique. Et plus la population augmente, plus répondre aux besoins devient compliqué. Les ressources ne sont pas infinies. L'assiette alimentaire est même en train de rétrécir. La désertification rendra de larges sections de pays complètement inhabitables et non cultivables, comme cela se profile en Espagne, dit-il. Tandis que la salinisation causée par la montée des eaux détruit des récoltes de riz en Asie. On manquerait également de place pour se loger. Le Grand Nord, ce n'est pas demain la veille qu'on va s'y installer avec nos condos. Les gens hyper riches risqueraient d'accaparer une part toujours plus substantielle des ressources, ce qui ne ferait qu'aggraver les inégalités et ne serait pas très aidant pour la paix sociale, affirme Alain Létourneau. Pour plusieurs démographes, la croissance de la population représente aussi une menace, indique Richard Marcoux, directeur du département de sociologie de l'Université Laval et de l'Observatoire démographique et statistique de l'espace francophone. Mais pour d'autres, ce sont les modes de consommation qui sont les plus importants. La Terre pourrait supporter plus de gens qui se comportent comme il faut. Mais c'est sûr que si l'ensemble de la planète se conduit comme l'Américain moyen, on est dans le pétrin. Vu la baisse de fécondité à l'échelle mondiale, les Nations unies projettent que la population cessera de croître à partir de 2100. Mais qui sait ce qui se produira vraiment? Au XXe siècle, les Nations unies, la Banque mondiale et des chercheurs étaient convaincus qu'il devait y avoir un plafond à la durée de vie moyenne, rappelle la professeure Nadine Ouellette. Or, dit-elle, les limites supérieures annoncées pour l'espérance de vie ont, tour à tour, été contredites par la réalité. L'être humain a toujours eu un grand désir de vivre. C'était « La multiplication des centenaires va-t-elle bouleverser la planète ?» un texte de Marie-Claude Malbeuf paru le 14 février 2024 dans la presse.